Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news? C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Offcast. Je suis Guillaume Geneste, créateur de l'émission Spoilers. Spoilers est une émission qui, chaque mois, vous fait découvrir l'univers de la série fantastique et de science-fiction. Que ce soit à travers des critiques, du décryptage, des interviews de ceux qui font ou étudient nos séries cultes, Spoilers vous invite à plonger dans ces univers imaginaires qui ont tant à dire sur notre monde actuel et ses évolutions. N'hésitez pas à nous suivre sur spoilers.lepodcast.fr et en attendant, partons à la découverte de la pétillante Noémie Kempf et de son podcast The Storyline. Bonne écoute! Bonjour Noémie, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Offcast pour parler de ton podcast The Storyline, un podcast consacré à un sujet que j'aime beaucoup, le storytelling et le content marketing, ou l'art de savoir raconter une marque pour communiquer au mieux de ses valeurs. Avant de parler de ton podcast du coup et de The Storyline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous raconter ton parcours ?
Bien sûr, ben merci pour l'invitation pour commencer. Et du coup, pour te parler un peu de moi et pour ne pas passer trop dans les détails, j'ai un parcours un peu classique, classe prépa, école de commerce. Et ça fait 7 ans que... Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Ça fait 5 ans et demi que je travaille.
Comme le temps file.
La stratégie de la seniorité. Ça fait 5 ans et demi que je travaille et j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai commencé ma carrière en tant que country manager à San Francisco. Puis, je suis revenue en France et j'ai bossé dans une start-up plutôt dans les opérations. Et j'ai fini par bosser en marketing chez Numa, l'ancien accélérateur de start-up que tu connais peut-être, qui était le premier accélérateur de France d'ailleurs, en tant que responsable marketing. Et il y a environ 1 an et demi, j'ai quitté mes fonctions de responsable marketing chez Numa pour me lancer en tant qu'indépendante dans le content marketing. L'idée étant d'aider les marques, principalement les entrepreneurs, les startups, à un peu trouver leur voie VOIX dans le sens de leur stratégie éditoriale et de créer leur stratégie en gros de communication, de marketing inbound. Donc, marketing inbound étant la création de contenu à forte valeur ajoutée pour attirer les prospects et les audiences à toi plutôt qu'à les chercher par des publicités un peu intrusives, ce qui est ce qu'on appelle l'outbound. J'ai fait ça pendant... ça fait 1 an et demi que je le fais. Et il y a un peu plus de 5 mois, j'ai créé The Storyline, qui est donc le podcast dont on parle aujourd'hui, qui est un podcast qui explore le storytelling et les stratégies de content marketing des plus belles marques, quelle que soit l'industrie et le focus, comme B2B ou comme B2C. L'idée est de comprendre un peu, de décrypter les stratégies marketing derrière le succès, la notoriété et l'obsession qu'on peut créer autour d'une marque et de son univers.
Ok, effectivement, c'est hyper intéressant et tu m'as presque offert une transition parfaite puisque tu parles de trouver la voie du coup des entreprises, de trouver leur voie. Est-ce que toi, du coup, tu as un objectif secret ou une raison d'être ultime derrière ce podcast ou est-ce que tu l'as fait par envie et sans avoir particulièrement, on va dire, de construction derrière.
Non, l'origine du podcast était plutôt un peu à l'arrache, pour être honnête. Enfin non, pas vraiment à l'arrache, mais l'objectif de base, c'était plutôt de pouvoir accéder à des content managers, à des gens en marketing dans des boîtes que j'admirais. Donc, vraiment, en fait, travailler mon réseau, m'inspirer des meilleurs en allant directement les voir et les rencontrer. Ça, c'était un peu l'objectif de base. Et assez rapidement, je me suis dit que le podcast était une belle manière de partager ses apprentissages plutôt que de faire un café qui est du coup à une échelle basique, qui est celle du one-one. Je me suis dit, bah voilà, le podcast, en fait, va me permettre de diffuser les apprentissages et de les partager à d'autres parce que le sujet peut intéresser d'autres personnes. Ça, c'était un point. Et l'autre point, c'était que j'étais assez frustrée dans mes débuts en tant que content stratégiste, de voir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont hyper talentueux et qui ont des visions incroyables, mais qui sont juste pas doués avec les mots et pas doués avec la com, parce qu'au final, c'est un métier. Et je trouvais ça hyper rageant de voir tous ces beaux projets engagés à impact social, environnemental, j'en passe des meilleurs, qui étaient juste créés par des gens qui sont un peu des génies, mais qui sont un peu dans leur monde et qui sont incapables de transmettre ou en tout cas de formuler de manière un peu avec un petit coup de polish qui est celui du marketing. Et donc, je me suis dit que The Storyline pouvait aussi aider ces gens à s'inspirer de stratégies facilement actionnables pour porter un peu mieux leur message. Parce que malheureusement, en tant que freelance, je ne pouvais pas non plus travailler avec tout le monde.
Ok. Et toi, à titre personnel, tu étais auditrice de podcast beaucoup ou pas du tout
Un petit peu. J'ai pas une consommation obsessionnelle de podcast. Je suis beaucoup plus... En fait, je suis vraiment partie du contenu écrit. Et moi, ce que j'adore, c'est lire et écrire. Le podcast est un format que j'explore depuis un peu moins longtemps. Mais j'écoutais pas mal de podcasts... Enfin, pas mal. Quelques podcasts qui étaient plutôt de la fiction. Ou des podcasts un peu justement autour du storytelling. Il y avait notamment 99% Invisible qui raconte des histoires autour d'objets de design et de consommation du quotidien. Business Wars qui raconte un peu l'histoire d'entreprises genre Coca versus Pepsi et donc du coup toutes les stratégies, les tactiques commerciales et marketing derrière les guerres entre ces acteurs de même secteur. Mais je n'étais pas non plus très familière de l'écosystème podcast français que j'ai appris à connaître en me lançant un peu sur le tas.
Ok, d'accord. Et aujourd'hui, The Storyline, c'est un site internet où tu dispenses quelques conseils, notamment pour créer son podcast. Est-ce que cette idée, c'est d'inclure The Storyline dans ton écosystème professionnel? Est-ce que c'est des choses qui sont relativement séparées aujourd'hui? Comment tout ça fonctionne aujourd'hui?
Bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, j'avance à tâtons, pour être très honnête. Non, globalement, clairement The Storyline et mon univers professionnel, mon écosystème, mon réseau se recoupent énormément. Puisque le sujet du podcast, c'est aussi ce que je fais dans mon métier au quotidien et c'est un truc qui me passionne. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui The Storyline? En effet, c'est un site web. Ça a un peu l'ambition de devenir un média autour du sujet du storytelling et du branding, de la création de contenu, que ce soit pour les marques ou pour les individus, parce que je suis admirative et je trouve ça passionnant tout ce qui est économie des créateurs. Qui met un peu de temps à se lancer en France, mais au final, il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre la parole sur des sujets divers et variés. Il y a Yoann Lopez avec les finances personnelles, Benjamin Perrin avec le content marketing aussi, Thomas Burbridge pour les indépendants. Et tous ces gens, en fait, du coup, eux sont experts, mais il y en a beaucoup qui ont des sujets d'intérêt dont ils auraient envie de parler. Il y a plein de gens qui passent leur temps et leur journée à me dire « Ah, j'ai envie de travailler mon personal branding, je ne sais pas comment m'y prendre. » Donc, du coup, The Storyline aurait vocation à aider à la fois les marques pour les aider à créer leur univers, leur campagne et leur stratégie de marketing, mais aussi les individus pour un peu définir leur plateforme de marque personnelle. Aujourd'hui, le podcast le fait. La newsletter que j'ai lancée un petit peu après le podcast le fait aussi. Et je commence à expérimenter les formats bootcamp, qui sont une espèce d'hybride de formation. Je ne suis pas fan du mot formation parce que je trouve que ça a une connotation un peu statique, un peu passive, un peu je suis récipient et le formateur me déverse un savoir expert. Les bootcamps, c'est un peu plus actionnable et beaucoup plus ancré dans l'action. Ça va être plus proche du coaching. Et donc, c'est un format que j'essaye d'expérimenter à la fois sur la connaissance de soi, donc du coup un peu l'amont du personal branding, et sur la création d'un plan de content marketing de manière beaucoup plus prosaïque.
En tout cas, c'est super intéressant. Effectivement, on voit que sur le site, il y a vraiment une offre qui est assez cohérente et qu'on a envie d'un petit peu explorer comme ça. Donc, en tout cas, je te souhaite tout le succès possible. Le storytelling, c'est un outil assez transverse. Ça s'applique à plein de domaines différents. Et d'ailleurs, on voit dans ton podcast que tu invites aussi bien des serial entrepreneurs que des community, enfin des content managers issus de grands groupes. Comment tu choisis tes invités et tes sujets? Est-ce que les deux se répondent? Est-ce qu'il y en a un qui, le sujet, c'est d'abord se dévoile d'abord et ensuite tu cherches l'invité, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? C'est quoi aujourd'hui ta stratégie, on va dire?
Eh bien, glad you asked. en gros, c'est un peu des deux. Comme tu le dis, c'est un sujet très transverse. Et au final, les histoires et le fait de créer un schéma narratif peut se retrouver un peu partout, dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise, d'un point de vue marketing, j'entends. Généralement, je fais de manière assez intuitive. J'ai tendance à identifier des gens ou des entreprises dont je suis un peu obsédée. Donc, je trouve qu'ils font un super taf, qui ont vraiment réussi à soit créer un univers, soit qui ont fait une campagne qui était ouf, soit des personnalités en fait qui bossent pour des entreprises que je trouve assez rayonnantes, que je trouve qui font du bon travail. Et je les contacte et souvent je fais un call avec ces personnes en amont. Et assez souvent, assez naturellement, tu vas sentir qu'il y a une thématique qui les intéresse plus qu'une autre, un truc qui est leur sujet, leur dada, et c'est comme ça que souvent le sujet est défini. Donc c'est plutôt, je pars de l'invité et je creuse le sujet, bien que honnêtement dans les épisodes on aborde plusieurs sujets, mais il y aura toujours un fil rouge. Mais ça m'est arrivé aussi de partir dans l'autre sens, par exemple avec Swile, anciennement Launcher, justement. J'ai trouvé que le rebranding avait été fait de manière hyper intéressante et plutôt bien, plutôt très très bien même. Et donc du coup, j'ai contacté Solène, qui est content manager chez Swile, et je lui ai donc pitché en fait l'épisode en lui disant, bah moi j'aimerais trop creuser ce sujet du rebranding, comment toi et ton équipe vous l'avez mené, comment ça s'est passé, etc. Donc là, on est plus parti du sujet. Et il s'avère que Solène était partante pour en parler. Mais du coup, c'est vraiment très instinctif. Je regarde beaucoup ce qui se passe sur les différentes industries qui m'intéressent. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit une personne qui dise un truc qui m'interpelle ou une marque qui fasse un move que je trouve cool, bah, je vais aller les contacter et leur proposer de les mettre en valeur dans le podcast.
Ok, c'est vrai que c'est souvent, on est un peu tous comme ça. Je crois que le podcast, c'est un super moyen pour approcher des gens avec qui on a envie d'échanger et un peu parfois même de qui on peut être fan, et de le faire en toute professionnalité, on va dire, et pas en tant que fanboy ou fangirl d'une personne. Et là-dessus, c'est vrai que c'est plutôt cool, le podcast.
Exactement, le stalking sans être quard. N'hésitez pas à lancer un podcast.
Exactement. Et ça fonctionne du coup de ton côté, c'est-à-dire que tu arrives à contacter tous les gens que tu veux contacter, ou ça reste un peu compliqué parfois?
La question, c'est, est-ce que je me suis pris des gros vents?
par exemple?
La réponse est oui. Non, franchement, les gens sont très, très réactifs. Au final, ça fait toujours plaisir que quelqu'un te contacte pour te dire « je trouve que tu fais du super travail, j'aimerais en parler, j'aimerais te mettre en valeur dans un podcast ». Donc, et puis j'ai la chance d'avoir maintenant un peu plus de visibilité qu'à mes débuts. À mes débuts, j'ai vraiment fonctionné par réseau et j'ai contacté des gens avec qui j'avais soit une connaissance en commun, soit que je connaissais directement et qui faisaient du content, parce qu'au final, j'avais déjà un petit réseau dans le marketing grâce à Numa et mes anciennes expériences. Et ce petit réseau de base m'a quand même donné une solidité et aussi la confiance d'aller pitcher des gens que je connaissais pas, parce que c'est pas forcément facile au début, on se sent un peu bête quand on fait du démarchage à froid comme ça, mais la démarche est vraiment hyper honnête et hyper, hyper authentique. C'est de dire tu fais un truc trop cool, j'ai envie d'en savoir plus, parlons-en. Donc généralement ça marche plutôt bien, et c'est surtout l'après que je trouve ouf, c'est que très souvent, enfin mes invités, donc, comme je disais, je suis toujours impressionnée par ce qu'ils font et je les interview parce qu'ils font du travail de qualité. Mais très souvent, on crée aussi un lien, on a une super entente et il y a certains avec qui j'ai carrément envie d'aller plus loin et de faire des trucs professionnellement parlant, j'entends. Typiquement, Antoine Chauffru, qui était un invité du podcast, qui est Head of Talent de France Digital, c'est avec lui qu'on a co-créé le bootcamp The Storyline sur le développement personnel, donc du coup sur la création de son pitch professionnel sur LinkedIn. Typiquement, c'est une rencontre via le podcast et la découverte qu'on avait plein d'atomes crochus et plein d'envies professionnelles en commun. Et donc du coup, assez naturellement, on a créé un truc ensemble. Et je trouve ça trop bien, et le podcast me donne de plus en plus envie d'aller dans ces zones d'exploration de lancement de business ou de produits avec les invités.
Je suis assez d'accord, effectivement, ouais. Justement, rencontrer des gens, faire des choses avec eux, c'est s'inspirer aussi. Et ton podcast, il a une forte, je trouve, vocation inspirationnelle. En tout cas, moi, quand je l'écoute, c'est aussi ça que j'en retire. Et ça m'amène à une question que j'aime bien poser à ceux qui font du podcast. Est-ce que tu as le sentiment, toi, à titre personnel, que tu fais d'abord le podcast pour toi, ou est-ce que tu le fais d'abord pour des auditeurs? Je m'explique, c'est vrai que souvent, les gens peuvent avoir ce sentiment, ou en tout cas presque même cette volonté de dire peu importe s'il y a beaucoup de gens ou peu de gens qui m'écoutent, moi je fais d'abord le podcast pour moi, je le fais par passion, par défi, par challenge, ce que tu veux, mais je le fais d'abord dans le moment où je suis en train d'enregistrer le podcast, dans l'échange que j'ai avec mon interlocuteur. Et finalement, le côté auditeur, il passe un peu au second plan, là où d'autres vont être beaucoup plus dans la conscience aiguë que ce qu'on est en train de faire, il doit être écouté par des gens, donc ça doit être le plus agréable possible, et sinon ça n'a pas vraiment de sens. Comment tu te situes, toi, par rapport à ça, et est-ce que tu entretiens un rapport avec ton audience? Est-ce que tu échanges avec elle, et si oui, par quel biais?
Je peux te faire une réponse de normand et te dire c'est les deux.
Ça me va, je suis normand, donc je comprends complètement.
Très bien, je suis alsacienne, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, c'est une bonne question. Je pense que ça a commencé par un exercice qui était vraiment principalement pour moi. Parce que en fait, ça me permettait de développer mon réseau et d'apprendre des meilleurs. Du coup, avec vraiment une espèce de voie royale vers les gens qui sont considérés comme des experts dans leur secteur. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un côté, toujours pour moi, de développement personnel, où le podcast, en fait, m'a appris à me faire plus confiance, à plus miser sur mon intuition pour trouver des speakers, etc., développer un peu mon bagout du pitch quand je pitchais aux invités le concept du podcast. Et c'est un truc qui me force un peu à me dépasser, parce que c'est un truc que je construis en permanence et que je ne maîtrisais pas il y a 5 mois. Donc j'apprends en permanence et ça me permet aussi de continuer à solliciter ma curiosité et à m'éduquer là-dessus. Mais assez rapidement, bien sûr, le podcast a été mis en ligne, donc il a été écouté par des gens. Et l'objectif était vraiment d'amener de la valeur au-delà de mon petit cercle, de mon cercle de premier degré, je ne sais plus parler. concert. Tu as compris. Pour vraiment, au final, avoir un impact sur les entrepreneurs ou les freelances ou tout simplement les content managers, les gens en entreprise qui ont envie de peaufiner leurs skills sur le marketing. Et assez rapidement aussi, bah, y a des gens qui, naturellement, m'ont écrit. Et ça, c'était une surprise. Au début, je me suis dit, bon, je vais poster des épisodes et tu vas voir ce qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, c'est cool, ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé, ça, ça m'intéresse, est-ce que tu as des ressources pour que je puisse creuser, machin. Et au final, j'ai des dialogues avec plein de gens, ce qui est génial, puisque ça me permet aussi de rencontrer des profils passionnants que j'aurais jamais rencontrés si je m'étais pas lancée et si je m'étais pas rendue un peu plus visible. Et c'est des gens qui vont être soit dans la suggestion, soit dans le partage, soit même dans la demande de conseils. Et on communique, il y a de tout, par email. Je me fais des calls quasiment toutes les semaines avec des auditeurs pour un peu comprendre leur histoire. Parce que c'est assez cool de voir qu'il y a des gens qui s'inspirent des apprentissages du podcast ou de la newsletter pour les appliquer soit à eux-mêmes, soit à leur business. Et quand ils m'écrivent pour me dire « Ah bah ouais, j'étais bloquée là-dessus, le podcast m'a donné envie de tenter telle stratégie et puis ça a marché comme ci, comme ça », je me dis « Mais c'est génial, l'objectif est atteint, je suis utile sur ce dans le planète. » Et du coup, je pense que là où ça a commencé comme une aventure un peu plus qui était de me prouver quelque chose et de monter en compétence sur mon domaine, aujourd'hui c'est beaucoup plus... me mettre au service d'une communauté qui commence à se développer, qui commence à interagir non seulement avec moi, mais aussi entre elles. Et je veux vraiment donner aux gens une plateforme d'expression et leur donner les outils et les moyens de se faire entendre et de se faire remarquer aussi.
Ok. C'est super cool, effectivement, si tu as des retours à travers le podcast ou les différents moyens que tu as de valoriser ton contenu, ça doit être super satisfaisant.
C'est aussi...
Je t'en prie, vas-y.
Non, je te coupe. Non, du coup, c'est un bon exercice d'humilité.
Ouais, c'est clair. C'est assez marrant que tu dises ça, du coup, parce que là, je vais plutôt te faire des compliments. Mais je trouve que la réussite aussi de ton podcast, elle tient beaucoup aussi à toi, en fait, au naturel de ta présence, de ton hosting, à la manière dont tu échanges avec tes invités. Est-ce que c'est un effort conscient de ta part ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé parce que ce n'était pas particulièrement naturel, on va dire, la prise de parole? Comment tu gères un peu ton hosting?
C'est marrant, on me fait souvent du coup un retour sur le fait que je fais des blagues, je rigole tout le temps et on fait beaucoup de retours sur ma voix. Et en fait, petite anecdote, The Storyline est un peu, l'idée du podcast est un peu venue d'une remarque, d'un commentaire sur ma voix. En gros, c'était, je crois que c'était en décembre 2018 ou 2017, je ne sais plus, c'était il y a presque 2 ans. Et en gros, j'étais chez Decathlon, j'allais acheter de l'équipement parce que j'ai passé Nouvel An à Ushuaia à l'époque. Et donc, j'étais hyper contente. Et quand je suis hyper contente, je suis hyper volubile. Donc, je parle aux petites vieilles dans la rue, je fais des blagues aux gens et tout. Donc là, j'étais hyper contente parce que j'ai acheté du matos pour mes vacances. Et donc, j'arrive à la caisse chez Decathlon, place de la Madeleine à Paris. Et évidemment, je commence à tchatcher le caissier. Je fais des blagues et tout. Puis là, il s'arrête, il me regarde et il me fait « Excusez-moi, ça va vous paraître bizarre, mais... est-ce que vous faites des doublages de voix au cinéma dans les dessins animés ?» Et j'étais là, non, je suis consultante en innovation et marketing, mais bon, au final, pourquoi pas ? Et il me fait, ah non, mais parce que je trouve que votre voix, elle est vachement sympa et tout, vous devriez faire un truc, peut-être un podcast. Et en fait, le mec m'a posé une petite graine qui a mis un an et demi à germer au final. Merci d'ailleurs, s'il m'écoute aujourd'hui, je ne connais pas son nom, mais merci.
Oui, c'est ça, c'est grâce à toi, auditeur inconnu.
Auditeur inconnu. Mais du coup, je pense que je suis assez spontanée dans mon rapport avec mes auditeurs pour revenir à ta question. Et ça tient aussi de mon expérience d'avant qui est que une des raisons pour laquelle je me suis lancée en freelance et pour laquelle j'aime être freelance, c'est que je peux être moi-même versus un environnement dans l'entreprise. Après, toutes les entreprises ne se ressemblent pas, mais assez souvent dans mes expériences, notamment mes premières expériences professionnelles chez L'Oréal et Canal+, je me suis sentie un peu mise dans un rôle que je devais, que je devais respecter, être très formelle, être très cadrée, etc. Et ce n'est pas ma personnalité. Et aujourd'hui, être indépendante et avoir un podcast qui m'appartient me permet de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et donc du coup, si je veux faire des blagues, je fais des blagues. Si je veux rigoler, je rigole. Si je veux rentrer dans l'art de mon invité, je le fais. Parce que je considère que les gens qui m'inspirent le plus, c'est les gens qui sont authentiques. Et j'essaye d'être un peu pareil, de plus cadrer avec ma personnalité. Sans aller dans le too much, bien sûr, parce que c'est un risque aussi. Mais je n'ai pas d'effort conscient, en tout cas, dans le hosting. J'ai vraiment envie, en fait, d'établir une connexion, et comme si on était dans un bar autour d'un verre et qu'on se racontait nos vies et nos passions, quoi. C'est vraiment l'objectif du truc.
Ok. Alors déjà, du coup, ça m'inspire une première remarque, c'est que bientôt, le podcast fiction de Noémie, du coup, avec des voix rigolotes, si je comprends bien.
C'est bien, ASMR, on ne sait pas encore.
C'est ça, parce que du coup, il a peut-être aussi planté cette petite graine-là, ce monsieur. Et la deuxième, c'est aujourd'hui, globalement, au-delà de cet aspect assez naturel de ta démarche, est-ce qu'il y a quand même des petits tips que tu as ou que tu pourrais donner pour t'améliorer, des choses que tu as apprises dans tes premiers podcasts, et tu t'es dit, il faut quand même que je fasse ça ou ça pour que je sois plus à l'aise dans les prochains, enfin, dans les numéros suivants?
Oui, il y a eu plusieurs trucs et c'était un peu des petits fails. mais du coup, déjà, quand tu enregistres un podcast et qu'après tu te réécoutes, tu te rends compte que tu répètes toujours les mêmes... Moi, par exemple, après, c'est parce que je suis passionnée par ce que me disent mes invités, mais je répète toujours « Ah, c'est trop intéressant !» Donc du coup, il faut que je fasse violence pour ne pas répéter 15 fois « C'est intéressant !» parce que du coup, c'est chiant pour les gens qui écoutent le podcast de m'entendre dire ça 30 000 fois par épisode. Puis on a tendance à avoir des tocs de langage, de faire des petits bruits pas très agréables. J'imagine que toi aussi, tu connais, mais les hésitations, les « parfois les...
Oui. » Le fameux « du coup ».
Je ne sais pas si ce sera enlevé au montage, mais c'est plutôt des choses comme ça. Donc vraiment, essayer d'avoir un langage un peu varié, pas trop bafouiller, buter sur ses mots, se faire confiance. Et puis aussi, instaurer des silences. Ça m'arrivait souvent au début d'être tellement empressée de rebondir sur ce que disait l'invité que du coup, je lui coupais la parole. Il n'y a rien de pire, en fait, que ça.
Ouais. Effectivement, on en est tous un petit peu là, je pense. Je suis très, très admiratif à titre personnel des gens qui ont un discours et une manière de s'exprimer en podcast ultra fluide, ultra naturel. Il y a toujours un peu de stress, il y a toujours du naturel dans la manière dont on s'exprime aussi, qui fait qu'à la réécoute, on se rend compte des fameux tics de langage. Et c'est très difficile, je trouve, d'aller contre ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui avec ce numéro d'Offcast et qui peuvent nous donner leurs tips imparables pour faire évoluer la locution et la manière de s'exprimer. Mais je pense que c'est un gros levier d'amélioration, je pense, du podcast. Ouais.
S'entraîner au bord de l'océan en furie avec des cailloux dans la bouche, c'était Socrate ? Non, Platon ? Je ne sais plus qui.
Ah, je ne sais pas.
J'ai pas entendu cette légende. Non, ok, d'accord, il n'y a que moi. J'avais des
fois... je fais confiance, écoute.
Et je me sens qu'on m'avait raconté cette histoire en prépa. C'était avant qu'on passe les entretiens de personnalité. Et on nous avait dit... je ne sais plus qui c'était. C'était un grec. Bref.
Ok, très bien. Écoutez, vous qui nous écoutez, testez-le et puis donnez-nous votre avis sur la technique des cailloux.
Alors, petite side note. Deuxième conseil, pour le coup avéré, ma mère est prof d'anglais et parfois elle fait s'entraîner ses élèves, elle leur fait prononcer des mots avec une patate dans la bouche.
Ah,
c'est des cours hyper intéressants. Pas très Covid-friendly, mais, mais c'était avant.
J'imagine effectivement une classe d'étudiants avec des patates dans la bouche, ça doit être assez marrant. au niveau de... on va dire, là, on a parlé un peu des sujets et puis de comment tu gères un petit peu ça. Toi, tu t'inscris avec The Storyline dans un écosystème, on pourrait dire, de ces podcasts qui échangent avec un professionnel d'un certain univers métier. On a vu ces derniers temps que c'était un format qui était assez populaire, je pense, d'une part parce que c'est hyper intéressant et puis d'autre parce que on est sur un format d'interview comme ça qui demande un minimum de, on va dire, montage éventuellement, et qui peut être assez mobile en termes de dispositif. Comment toi tu te positionnes par rapport à cet écosystème? Déjà, est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu regardes ça d'un œil un peu distrait? Ou au contraire, est-ce que ça t'inspire? Et est-ce que ça te pousse à te démarquer? Ou pour l'instant, on va dire que tu t'inscris dans cette mouvance, mais tu n'as pas particulièrement de regard là-dessus?
Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le format interview est quand même hyper répandu, et en effet c'est un format un peu facile entre guillemets, dans le sens où y a moins de contenu à créer, c'est du partage d'expérience. C'est ça qui en fait la richesse. Au final, je trouve ça assez cool d'être capable de googler le nom de quelqu'un et de pouvoir écouter une ou plusieurs interventions de cette personne sur un sujet qui lui tient à cœur. Donc ça c'est pas mal. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, pour des sales, c'est quand même hyper riche comme man de territoire de chasse, mais ça n'a rien à voir avec le sujet et ta question, je suis désolée. Du coup, moi je suis en action. C'est cool de pouvoir se plonger déjà d'avoir, en fait ça revient à ta question sur l'approche sujet ou invité. Tu peux poncer un sujet avec différentes personnes, différentes perspectives, c'est cool, mais tu peux aussi en fait apprendre à connaître une personne dont tu admires le travail en écoutant plusieurs interviews et en comprenant différentes briques de son travail. Je trouve que en effet parfois il y en a beaucoup et c'est difficile de suivre. Typiquement Johan, j'ai publié l'interview de Johan Lopez ce matin, et il y a quelques semaines il a été interviewé par une autre personne qui est Yann, il me semble, sur un autre sujet. Mais ça s'est sûrement recoupé. Donc parfois, tu te dis, ouais, ça peut peut-être devenir un peu trop massif. Moi, comment est-ce que j'essaie de me démarquer? Du coup, j'ai opté pour un modèle que je vois pas trop encore ailleurs, qui est donc un podcast bimensuellement. Donc une fois toutes les deux semaines, je vais publier un épisode. Et en fait, la semaine qui suit l'épisode, je vais creuser le sujet abordé dans l'épisode dans ma newsletter. Donc en fait, creuser le sujet par écrit et donner pas mal de choses en lien avec ce sujet. Donc une réflexion personnelle, une analyse des tendances, des outils pour s'y mettre soi-même et des conseils, etc. Et donc du coup, je crée une évolution très actionnable et très poussée du sujet inspirationnel abordé pendant l'interview ou pendant le podcast.
C'est vrai que tu produis effectivement une matière entre tes podcasts hyper riche. D'ailleurs, ça doit te demander pas mal de temps, j'imagine. Et c'est hyper intéressant, du coup, de poursuivre l'écoute d'un épisode avec tout ce contenu riche qui permet d'activer diverses choses derrière. Et c'est vrai que tu as régulièrement. T'as une belle régularité aussi de deux semaines, mine de rien. C'est pas facile de maintenir ce truc-là, ce rythme-là, quand on fait du podcast, parce qu'il faut trouver les gens, il faut avoir le temps. Et puis, deux semaines, c'est assez rapproché, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé à partir sur ce rythme-là, par curiosité?
C'était plutôt une fuite du hebdomadaire. C'est qu'au début, j'étais partie sur par semaine, naïvement. Et en plus, je me suis lancée la semaine avant le confinement. Donc, autant te dire que j'étais en panique quand on s'est retrouvé bloqué chez nous et que je ne connaissais pas encore les outils d'enregistrement à distance. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Mais du coup, les premières semaines, j'ai publié un épisode par semaine, du coup. Je me répète. Mais c'était un rythme beaucoup trop violent parce que j'ai quand même à côté de The Storyline, j'ai des clients, j'ai plusieurs projets, des side projects sur lesquels j'avance, des gens que je coach pro bono, donc ça faisait beaucoup. Du coup, j'ai réduit à une fois toutes les deux semaines, mais j'avais un peu ce FOMO et cette peur de pas réussir à donner sa chance et donner sa visibilité au podcast. Donc je me suis demandé, qu'est-ce que tu peux faire la semaine où tu publies pas un épisode de podcast qui va apporter de la valeur aux auditeurs et qui va pas te demander trop de travail, ou en tout cas qui va être dans la continuité du podcast. Et en fait, j'aime beaucoup écrire. C'est un exercice qui me permet moi aussi de cadrer mes pensées, de travailler mes réflexions, d'avoir des pensées un peu originales sur des sujets marketing. Donc ça m'est apparu comme un peu une manière, un bon compromis pour prendre la parole une fois par semaine, mais sans avoir à créer du podcast, le format podcast que je trouve au final assez en effet contraignant, parce qu'il faut, comme tu le disais, trouver les invités, monter le podcast, écrire l'article, le mettre sur la plateforme, blablabla. Et la newsletter, au final, ça prend du temps, mais écrire, c'est une de mes compétences cœur. Du coup, c'est quelque chose qui me prend moins de temps. Du coup, voilà, c'était pour ça.
Ok, très bien. C'est une bonne raison, effectivement. Je pense que faire un épisode toutes les semaines, c'est ceux qui y arrivent sont très, très...
Ouais, c'est bluffant.
Très, très fort.
Ouais, non, mais big up à tout ce que tu fais.
C'est ça. Comment tu vois un petit peu l'avenir de The Storyline ? Est-ce que tu as des envies ? Est-ce que tu vois le format ou les choses évoluer ? Peut-être, alors là, effectivement, tu l'as dit, on est toujours dans un contexte qui est un petit peu particulier avec le Covid, mais est-ce que demain, avoir des formats, peut-être, je ne sais pas, table ronde ou alors aller dans des événements récupérer de l'information directement auprès de personnes, j'allais dire auprès du grand public, mais dans ta sphère professionnelle, est-ce que c'est des choses qui t'intéresseraient ? Est-ce que tu as des grands plans sur la comète comme ça ?
Alors, pour l'instant, j'essaye de survivre à la rentrée. c'est mon
plan. C'est vrai.
J'ai l'impression qu'on est tous matraqués et complètement tabassés par ce mois de septembre. Mais du coup, plus sérieusement, sur The Storyline et son futur, bah, maintenir le rythme, déjà, c'est un challenge. Mais ce que j'aimerais pouvoir faire et trouver le temps de faire, c'est d'enrichir le contenu que je crée, les guides, le peu de guides. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un sur la création de podcast et un sur la création de la plateforme de marque que j'ai créée sur le site. Ils ont pas mal de succès. Les gens me font plutôt des bons retours dessus et ils ont aidé plusieurs entrepreneurs que j'avais pas le temps d'accompagner individuellement à avancer de manière autonome. Alors, ce que j'aimerais, en fait, c'est créer le plus de tutos, de guides, d'outils que les gens peuvent s'approprier de manière autonome sur le site, pour un peu aller dans cette logique de plateforme, média sur le storytelling et de un peu one-stop shop, où les gens pourront faire leur shopping et récupérer les trucs qui les intéressent. À côté de ça, sur le contenu que je crée, j'aimerais beaucoup travailler un peu l'aspect journalistique et aller vraiment faire des espèces d'investigations, quoi. Genre, d'aller foncer un sujet particulier ou l'exemple d'une entreprise de manière très approfondie, d'aller plus loin que le format d'une demi-heure que j'ai aujourd'hui. Et ouais, de me réinventer un peu en pseudo-journaliste, même si je n'ai pas la prétention d'être une journaliste. C'est un métier qui demande beaucoup d'expertise, mais je trouve ça assez, assez passionnant, quoi. Le fait d'aller investiguer, creuser à fond dans une histoire, j'aimerais beaucoup travailler ce format-là. Pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais c'est potentiellement un format qui verra le jour dans les mois ou les semestres à venir.
Ok, cool. Bah, on restera à l'écoute alors. Un invité peut-être ou une entreprise qui serait un peu un goal pour toi dans les mois qui viennent ?
Et justement, pour rebondir sur...
S'ils nous écoutent peut-être.
J'avoue. Non, mais j'essaye déjà un peu de rentrer en contact de manière extrêmement subtile. Mais j'adorerais, pour rebondir sur le sujet journalisme, interviewer les mecs qui ont écrit l'article Society sur Xavier Dupont de Ligonnès. Parce que c'est quand même des mecs qui ont fait le buzz en France, qui ont... je ne sais pas combien ils ont multiplié les ventes de Society, mais c'était un travail que je trouve bluffant, d'investigation, de storytelling, de rédaction, de teasing. Enfin, tout le plan marketing autour de cette action de l'été était excellent. Et je trouvais ça passionnant de les interviewer dans le podcast.
Les journalistes qui ont écrit l'article, du coup, ou ceux qui ont été en charge, on va dire, d'en faire la promotion ?
Il y a les deux, mais du coup, plutôt, je pense que c'est vrai que les deux sont intéressants, mais plutôt les journalistes qui étaient en charge de faire l'enquête et de transformer l'enquête en récit.
Je trouve que c'est
un mécanisme hyper intéressant et au final, dans les entreprises, on n'a pas cette fibre journalistique ou moins. En tout cas, on a une approche très business et au final, le storytelling, c'est quand même l'art de l'histoire et de créer des émotions, du rythme, du suspense. Donc, j'aimerais bien aussi faire passer The Storyline hors de la sphère business et plutôt du côté des journalistes, je sais pas, du théâtre, de l'animation, des films, vraiment un peu des écoutilles des auditeurs.
Carrément, ouais. Et c'est vrai que on est dans une ère du storytelling, mine de rien. Même les approches les plus sincères, on a un peu le sentiment parfois que derrière, il y a quand même une construction qui peut être justement naturelle et encore une fois sincère, mais qui est quand même une construction de communication. Et c'est assez intéressant de savoir comment les gens sont venus à ça et comment ils ont construit leur discours par rapport à ça.
Bah, c'est vrai que j'avoue que moi j'en ai un peu marre des... Après, c'est bien pour apprendre et pour commencer à t'entraîner, mais j'en peux plus des frameworks, des frameworks à droite à gauche, de tout ce qui est théorie très formelle sur le storytelling, puisqu'au final, c'est quand même un truc qui est très, très intuitif et chargé d'émotions. Et du coup, je trouve que dans l'univers business, on a eu tendance à créer des formats standards, des templates et j'imagine que toi aussi, mais quand tu reçois des démarchages automatisés, c'est quand même, tu sens à 1000 km que c'est pas une personne qui a écrit ça ou que c'est une personne qui envoie le même contenu à 1000 personnes et ça enlève toute envie d'acheter ou en tout cas de se laisser séduire par le discours commercial. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'authenticité, de spontanéité. Et c'est un truc qui s'apprend pas forcément, mais qui se travaille, en revanche.
Ouais, complètement, ouais. LinkedIn est un super... super terreau pour non mais en plus sans blague je trouve un super terreau pour justement réussir une communication différente parce que c'est tellement codifié aujourd'hui et plutôt dans le mauvais sens du terme que réussir à faire quelque chose de plutôt sincère et intéressant sur ce réseau bah tout de suite ça a fait que on est repéré quoi.
C'est vrai mais du coup oui je pensais que t'allais prendre le contre-pied du truc et parler de un peu du dark side de LinkedIn où les gens vont potentiellement faire des copier-coller de posts inspirationnels et du coup je sais pas si le compte Twitter je crois que c'est Disruptive Humans of LinkedIn qui est assez marrant et qui screenshot justement comme ça pas mal de posts anonymes bien sûr qui raconte des trucs un petit peu, enfin, tu sens à 1000 km que c'est un truc qui a été pompé ou que c'est un truc pas hyper.
Ouais. Je crois qu'il y a un compte sur LinkedIn maintenant aussi qui s'appelle CopyPost, si je me trompe pas, et qui repousse aussi ce genre de choses.
Voilà, si vous nous écoutez, allez vous inspirer, ne faites pas la même chose.
Complètement, ouais.
Mais du coup, il y a ça, il y a aussi le côté spontané. En effet, il y a des gens qui font des trucs de ouf. Bah, typiquement, Johan Lopez, je trouve que c'est un peu... C'est un peu un excellent exemple de quelqu'un qui utilise LinkedIn non seulement comme une espèce de carnet de bord où il va partager ses réflexions, ses évolutions, ses outils, ses découvertes, mais aussi le contenu qu'il crée en échange d'engagement. Et du coup, il crée un cercle vertueux parce que plus les gens commentent ses posts, likent ses posts, plus il va créer du contenu et donner des trucs, et des trucs à vraie valeur ajoutée. Et du coup, il a de la visibilité, plus il va avoir un piédestal pour un peu... dire des trucs intéressants, ce qu'il fait toutes les semaines quasiment.
Ok, c'est noté. On ira se reporter à ton épisode du coup avec lui pour en savoir plus.
Je suis fan.
Offcast, c'est surtout le podcast des coulisses du podcast francophone. Alors, tu nous as déjà dit plusieurs lors de cet épisode, mais est-ce que tu as encore une anecdote ou un petit fail sympa autour de The Storyline à nous raconter pour conclure cet épisode ?
Des fails, il y en a plein. Mais peut-être une anecdote, c'est que la moitié des épisodes jusqu'à présent ont été enregistrés de mon côté en pyjama. Et ça, c'était un kiff. À vous de deviner lesquels.
Ouais, pour le coup, merci le confinement, j'imagine, ou en tout cas le Covid, ouais.
Oui, moi j'ai beaucoup investi dans les pyjamas et les leggings. C'était une période très sombre de ma vie.
Blague à part, du coup, toute cette période là de ces derniers mois, ça n'a pas eu d'impact particulièrement pour toi sur ton podcast en fait. Est-ce que même ça a été plutôt positif dans le sens où finalement toucher des gens à distance, peut-être même quand ils étaient un peu plus disponibles, ça a été une bénédiction ou
C'est une bonne question. En fait, comme j'ai commencé littéralement 4 jours avant le confinement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
J'avais pas de données comparatives sur le pré-confinement, les écoutes, sur l'engagement, etc. Donc au final, j'ai construit ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vois clairement qu'il y a une accélération qui est notable. Mais je ne saurais pas te dire si c'est dû au volume des épisodes, à la notoriété des invités que j'ai sollicités sur ces derniers épisodes, ou si c'est parce que les gens écoutent plus de podcasts, font un peu plus de trajets. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de data d'avant. Ceci dit, pour avoir parlé avec des podcasteurs qui étaient un peu plus établis depuis un peu plus longtemps, eux ont vu un peu une chute de leurs écoutes pendant le confinement. De manière assez homogène, la plupart des podcasteurs ont enregistré... Mais d'ailleurs, toi, je ne sais pas si c'était ton cas ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait une baisse des écoutes, en tout cas sur le premier mois, au moins.
Et côté invité, est-ce que ça a eu un impact sur le fait d'avoir des invités ou de ne pas les avoir ?
Encore une fois, manque d'éléments comparatifs, mais j'ai été assez impressionnée par la réactivité de la plupart des gens et leur ouverture, en fait, d'esprit, en tout cas leur ouverture à être invité dans un podcast. Je pense que le confinement a aidé à un petit peu ouvrir les écoutilles. Il y avait beaucoup de gens dispo. J'ai aussi fait beaucoup de rencontres, de cafés virtuels, de calls avec d'autres content marketeurs, des freelances. Je pense qu'on était tous dans une phase où on avait besoin d'échanges humains parce qu'on était tous bloqués et que psychologiquement, c'est, mine de rien, c'est hyper difficile. Et que potentiellement, ce besoin d'échanger, de se changer les idées a clairement aidé dans ma démarche.
Ok, très bien. Je te remercie de toutes ces informations. On retiendra donc du coup effectivement la petite anecdote de l'enregistrement en pyjama. De toute façon, le travail de manière générale a permis de libérer les tenues et les codes vestimentaires chez tout le monde. Donc c'était plutôt une bonne chose.
Cool. Ouais.
Exactement. Bonjour, nouveau style. Où est-ce qu'on peut retrouver The Storyline ? Est-ce que, là, très rapidement, tu peux nous indiquer, du coup, un petit lien ou un endroit où on peut te retrouver très facilement ?
Oui, bien sûr. Vous pouvez tout retrouver sur thestoryline.fr. La newsletter est sur Substack, mais il y a un lien vers la newsletter sur le site web. Donc, thestoryline.fr.
OK. L'endroit où on retrouve effectivement tout le contenu écrit, le contenu audio, les inscriptions à tes divers livres blancs et autres éléments. Merci pour cet échange, Noémie.
Merci à toi, Guillaume.
J'invite les auditeurs de Offcast à écouter The Storyline. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Moi, du coup, je me suis abonné après avoir eu la chance de faire un Offcast autour de mon podcast avec toi. Et je guette la sortie de chaque épisode depuis. Et, c'est assez passionnant. Comme je disais au début, je suis assez féru de tout ce qui est storytelling. Et donc, je n'avais pas encore de podcast dans ce domaine. Donc, merci à toi. Et il me reste à te saluer, à te souhaiter le meilleur pour la suite de Storyline.
Merci. Salut.
Salut.